Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je commence une nouvelle série de sermons avec l'Apocalypse. Ce livre est le dernier de la Bible. Il a donc toutes les chances d'être une conclusion, et même beaucoup plus que cela. Il est le couronnement et le condensé de toute l'Écriture sainte. Il reprend tout le sujet de l'Écriture sainte qui est de conduire l'homme de cette terre ingrate où il est exilé en punition de ses péchés jusqu'à la vraie patrie, la cité de Dieu. Pour cela, il leur rappelle d'abord aux chrétiens le terme vers lequel ils marchent, la récompense magnifique qui leur est promise dans cette grande cité de Dieu qui n'est ni plus ni moins que la contemplation de Dieu face à face éternellement au milieu des anges et de tous les saints. Mais en même temps, l'Apocalypse va nous rappeler cette vérité que nous avons beaucoup trop tendance à oublier, et cela a des conséquences dans la vie morale, cette vérité qu'on ne parvient dans la cité du ciel qu'en passant à travers des épreuves de toutes sortes. On constate dans les psaumes qu'il y a des psaumes, des prières notamment, puisque les psaumes sont des prières, dont on ne sait pas très bien s'il faut les appliquer à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'Église ou aux chrétiens pris individuellement. Eh bien, très souvent, les trois applications sont possibles simultanément parce que le Christ est le modèle du chrétien et parce que toute la vie chrétienne individuelle est une vie qui se fait dans l'Église. Et vous savez, mes bien chers frères, parce que vous l'avez plusieurs fois entendu, je suppose, que l'Église doit vivre sa passion comme le Christ a vécu la sienne. Eh bien, de même, le chrétien doit vivre sa passion comme le Christ et donc comme l'Église. Après quoi, il y a la résurrection pour Jésus-Christ, pour l'Église, c'est le message de la Sainte Vierge, à la fin mon cœur immaculé triomphera. Mais la victoire de Dieu et particulièrement de Jésus-Christ dans l'Église est annoncée à de nombreux endroits de l'Écriture sainte, et c'est la victoire pour les chrétiens fidèles dans cette description extraordinaire, magnifique, qui nous est faite dans l'Apocalypse. Vous voyez donc que cette série de sermons n'est que le troisième volet de notre grande série sur l'Église. Et j'espère, par là, vous faire encore un peu mieux comprendre et pénétrer le mystère de l'Église, et par là, vous faire un peu mieux comprendre et pénétrer le mystère de la vie chrétienne, la pratique de la vie chrétienne. L'Église qui est la grande oubliée des temps modernes, même de la part de beaucoup de chrétiens qui pourtant n'oublient pas notre Seigneur Jésus-Christ. Une phrase du tout début de l'Apocalypse, « Bienheureux celui qui lit » et qui entend les paroles de cette prophétie, et qui observe, qui garde ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Et donc, ce serait une erreur d'aborder l'Apocalypse avec la curiosité de l'avenir. Pourtant, c'est très souvent ce qu'on cherche en elle, savoir ce qui va se passer. Et même à quelle sauce nous allons être mangés par les ennemis de la foi. Non, il faut aborder l'Apocalypse non pas avec curiosité, mais en disciple. Bien sûr, le Christ révélera dans l'Apocalypse les derniers temps et les temps de l'Antéchrist, mais pas pour satisfaire notre curiosité. Pour deux choses. Tout d'abord pour nous montrer quelle doit être notre conduite de chrétien au service de l'Église et du triomphe du Christ roi. Deuxièmement, pour montrer sa puissance par la défaite de ses ennemis et par la grâce qu'il aura communiquée à ses amis pour être fidèle dans toutes les persécutions et dans toutes les épreuves. L'ouverture de l'Apocalypse est très solennelle et il faut faire bien attention de ne pas y voir de la poésie simplement, de ne pas y trouver quelque chose de merveilleux qu'on regarde de l'extérieur. Il faut au contraire que cette solennité nous montre l'importance de celui qui parle, et celui qui parle, c'est Jésus-Christ, voire c'est l'ange que Jésus-Christ charge de parler en son nom. Et Jésus-Christ, au début de l'Apocalypse, rappelle qui il est, quelle est son importance. Les apparences merveilleuses du langage de l'Apocalypse, mais c'est fait justement pour nous inciter à entrer dans un mystère. Il est évident que si Dieu utilise un tel langage merveilleux, ce n'est pas pour faire un décor grandiose, c'est à la fois pour nous inciter à entrer dans le mystère et en même temps pour cacher le mystère à ceux qui ne sont pas dignes d'y entrer. Je fus ravi en extase un jour de dimanche, dit saint Jean. Et s'il précise le dimanche, ce n'est pas pour rien. Et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette, et qui disait, ce que tu vois, écris-le sur un livre, et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie. Nous verrons que les sept églises désignent l'Église universelle. Et saint Jean poursuit, et je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis sept chandeliers d'or, sept, ce sont les sept églises. Chaque diocèse est un chandelier. Et, au milieu de ces sept chandeliers, quelqu'un qui était semblable au Fils de l'homme, donc le Fils de l'homme désigne le Christ dans son humanité, vêtu de la robe sacerdotale, serré à la hauteur de la poitrine d'une ceinture d'or. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche et comme la neige, et ses yeux étaient comme des flammes de feu, et ses pieds étaient semblables à l'oricalque, c'est-à-dire au bronze, tel qu'il est dans une fournaise ardente, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Alors, au lieu de nous dire, mais que signifient donc toutes ces comparaisons? Elles ont un sens. Et si je vous faisais un cours d'écriture sainte, nous ferions le commentaire de chacune de ces images, parce qu'elles ont toutes une signification profonde. Mais que faut-il en retenir? Que nous avons affaire à Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui manifeste en même temps sa solennité divine, dont la bouche est aussi forte et puissante qu'une trompette, dont les yeux ne sont pas comme les yeux des hommes qui voient la lumière, mais ce sont des yeux divins qui allument la lumière dans les âmes, dont les pieds sont assurés sur le bronze. Et je continue la lecture. Il avait dans sa droite sept étoiles. Ces étoiles sont les sept évêques des sept églises. Et de sa bouche sortait un glaive aiguisé des deux côtés. Et oui, aiguisé des deux côtés, parce que il peut couper à droite et à gauche. Il va jusqu'aux jointures des articulations, dit saint Paul dans l'Épître aux Hébreux. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa puissance. Alors saint Jean tombe à ses pieds comme mort, mais il dit, Cet homme, ou celui qui était comme un homme, passa sa main droite sur moi en disant « Ne crains pas, ne crains pas, c'est moi qui suis le premier et le dernier. » Premier parce qu'il est le Christ, le roi des rois, le dernier parce qu'il a été traité comme le dernier sur la croix. Le vivant, et j'ai été mort, et voici que je suis vivant pour les siècles des siècles, et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Le Christ ne rappelle pas seulement qu'il a souffert sa passion, il met sa passion en rapport avec toute l'Église, avec les luttes de l'Église et avec le triomphe de l'Église. Et après cette introduction fort solennelle, le Christ va donner à Saint Jean cette vision et il y aura une conclusion. La première vision, ce sont les sept lettres aux sept églises d'Asie. L'Église est fondée désormais depuis une soixantaine d'années. Saint Jean, qui a reçu la mission d'évangéliser l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, y a établi sept églises dont la principale est l'église d'Éphèse. Les progrès de l'évangélisation ont été rapides et merveilleux, mais en même temps, la persécution a accompagné la fondation de ces églises, pas seulement la persécution violente par le sang, mais surtout la persécution contre les âmes par les hérétiques et par ceux qui ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans ces 60 premières années, les évêques ont fait d'excellentes choses, mais commencent déjà un certain nombre de problèmes plus ou moins graves, et notre Seigneur va donc dicter à Saint Jean cette lettre pour dire ce qui va et ce qui ne va pas, et comment il va réagir si on ne corrige pas ce qui ne va pas. Et en même temps, pour rappeler quelle sera la récompense merveilleuse de ceux, évêques et peuples fidèles, qui continueront à aller comme le bon Dieu le veut, et à être vertueux et fidèles, et à proclamer la foi. Ces sept lettres sont intemporelles, ou plutôt elles sont universelles. Elles conviennent non seulement aux évêques de l'Asie du 1er siècle, mais à tous les évêques du monde, de tous les temps, à toutes les églises, donc à tous les chrétiens. Première lettre à l'église d'Éphèse, donc qui est la maîtresse des églises d'Asie mineure, qui est comme un phare au milieu des six autres églises. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange c'est-à-dire l'évêque. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, c'est-à-dire qui tient tous les évêques dans sa droite, qui marche au milieu des sept candélabres d'or, c'est-à-dire qui est au milieu de toutes les églises. Rappelez-vous, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Eh bien évidemment, les hérétiques se font passer pour des apôtres et essayent ainsi de troubler le peuple fidèle dans sa foi. Tu as reconnu qu'ils étaient des menteurs, reconnu, c'est-à-dire tu as fait reconnaître aussi. Et tu gardes la patience, et tu as supporté à cause de mon nom, et tu n'as pas défailli, supporté donc les épreuves. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta charité première. Charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu, et cet amour qui déborde en amour du prochain. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, c'est-à-dire d'une grande charité première, tu es tombé dans une charité tiède. Fais pénitence et fais les œuvres d'autrefois. Sinon, je viens à toi et je déplacerai ton candélabre de sa place, c'est-à-dire que le candélabre, le chandelier, sera déplacée, c'est-à-dire que je donnerai le diocèse à un autre, évêque. Si tu ne fais pas pénitence, je déplacerai ton candélabre de sa place. Ça peut également vouloir dire que le Christ déplace tout le candélabre, c'est-à-dire toute l'église particulière de cet évêque, comme il est arrivé quand des évêques devenus hérétiques ont fait, on peut dire, disparaître leur église parce qu'ils y ont éteint la foi. Et quoique cette église ait poursuivi sa route matériellement, elle n'était plus un membre vivant, un corps vivant dans le grand corps de l'Église de Dieu. Alors vous voyez, mes bien chers frères, c'est terrible. Le Christ exige absolument, dans les luttes titanesques contre le démon finalement, il exige une charité parfaite, et il suffit, malgré toutes les louanges qu'il fait à cet évêque, il suffit que cet évêque ait déchu de sa charité première, sans être pour autant tombé dans le péché, sans être tombé dans la trahison, simplement qu'il ait déchu de sa charité première, pour que le Christ le gronde, lui demande de faire pénitence, et lui dit que s'il ne revient pas à la ferveur de ses premières années de ministère, il déplacera son chandelier. Une application pour nous, mes bien chers frères, pour nous les pasteurs et pour vous les fidèles. Je vous ai dit au début que les paroles de l'Apocalypse s'adressent à toute l'Église. Je vous ai dit au début que très souvent dans les psaumes, ce qui concerne le Christ, ce qui concerne l'Église et ce qui concerne les chrétiens ne peuvent pas être distingués, parce que c'est la même vie, les mêmes épreuves, le même ciel vers lequel nous courons. Eh bien, il faut que nous prenions pour nous cette première lettre à l'évêque d'Éphèse, et je m'adresse, puisque vous m'écoutez, c'est donc que je pense vous méritez les louanges que Jésus-Christ fait à l'évêque d'Éphèse. Je connais tes œuvres, donc il connaît votre travail, votre patience, que vous ne pouvez pas supporter les méchants. Je suppose que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes ce qu'on appelle des traditionnalistes, c'est-à-dire que vous avez le zèle pour la gloire de Dieu, et que vous gardez patience, et que vous avez tout supporté à cause du nom de Jésus. Mais, faisons un examen de conscience pour voir si nous ne méritons pas le reproche fait par notre Seigneur. J'ai contre toi que tu as abandonné ta charité première. Et si c'est le cas, alors, mes bien chers frères, précipitez-vous au confessionnal, faites pénitence et demandez au Saint-Esprit, il est beaucoup de questions du Saint-Esprit dans l'Apocalypse, et notamment des sept esprits, c'est-à-dire des sept dons du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous faire comprendre l'importance, non pas seulement de la charité, mais de la ferveur de la charité. Ne disons pas « cela ne nous concerne pas ». Au tout début de la tradition, après la secousse de Vatican II et du nouveau rite de la messe, les chrétiens traditionnalistes ont été d'une énergie, d'une ferveur, d'un courage extraordinaire, acceptant d'assister à la messe dans des caves, étant fiers d'assister à la messe dans des garages, heureux d'honorer le jour de Noël notre Seigneur dans une pauvre cabane de chantier, parce que je l'ai vu cela, à l'imitation de la crèche. Et puis, petit à petit, parce que toutes ces œuvres magnifiques produisaient des fruits, on a cru qu'on était arrivé, et puis on a tombé, on a déchu de la ferveur première. Et alors Dieu a déplacé le candélabre, et la fraternité Saint-Pie-X de Monseigneur Lefebvre, qui était un phare, est un candélabre déplacé. Soyons bien fidèles, avec la grâce de Jésus-Christ et l'aide de la Très-Sainte Vierge, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.